Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et en partenariat avec le réseau de librairies indépendantes Initial. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Et si vous entendez des bruits bizarres, et ben c'est à cause du masque. Oui, parce que pour des raisons sanitaires bien compréhensibles, nous portons un masque pour ne pas contaminer nos micros et les casques portent des charlottes. Oui, ça donne un petit côté carnavalesque. Alors, comme d'habitude, deux parties dans cette émission. Tout d'abord, l'ado accro au livre que vous connaissez bien. Et en deuxième partie, l'interview de notre invité, Jean-Baptiste Andréa, auteur que j'ai découvert lors de la publication de son premier roman, Ma Reine, c'était en 2017, dont je vous conseille d'ailleurs la lecture, et qui vient de publier son troisième roman, Des diables et des saints, aux éditions de l'Iconoclaste, et pour lequel il a reçu le prix RTL Lire, oui, rien que ça, et c'est bien mérité. Nous avons eu la chance de contacter Jean-Baptiste Andréa avant l'attribution du prix, et il nous dévoilera les coulisses de son roman tout à l'heure. Mais auparavant, je laisse la parole à Arthur, qui va nous parler de grossophobie et de quasi-conte de fées, mais avec un bel au bois dormant, auquel il manque quelque chose, on dirait, et un roman qui rappelle un petit peu la carte de Tendre, des précieuses du XVIIe siècle.
Alors bonjour Claire, alors on est fin avril, il fait beau dehors, il y a des fleurs et on aime dire « ne te découvre pas d'un fil », mais moi je préfère dire « ne te sépare pas d'un livre ».
Quelle bonne idée.
Oui, et justement ce mois-ci je viens vous parler de deux romans très différents, mais aussi excellents l'un que l'autre.
Mais on n'en attendait pas moins de vous.
Du coup au programme, comme vous l'avez dit, une réécriture originale et sensuelle de La princesse au petit pois, qui se nomme « D'or et d'oreiller ». Puis Jamie Mosmore, un roman engagé contre la grossophobie.
Un beau programme, hein.
Bon, du coup, commençons sans plus tarder avec le nouveau livre de Flore Vesco, D'or et d'oreiller, qui est un roman ingénieux, extrêmement original, très drôle, absolument addictif et magnifiquement écrit. Je pourrais même rajouter à cela que l'histoire est étonnante, déroutante, sensuelle et unique, et que les jeux de mots de l'autrice sont véritablement fantastiques.
Mais non, je t'ai plus, la cour est
pleine. Que de superlatifs. Par exemple, on a drôle de l'ordre, et à l'envers, ça donne aussi drôle de l'ordre, si vous inversez les lettres.
Les voilà. Palindromes, on ne s'en lasse pas.
C'est ça, bah, justement, j'allais ajouter que pour votre culture générale, ça s'appelle un palindrome. Du coup, Flore Vesco, elle se distingue beaucoup par son écriture inventive et réfléchie, et par ses jeux de mots géniaux. Et ce roman ne déroge pas à la règle.
Donc c'est un vrai plaisir de lecture aussi sur le mot lui-même,
c'est
pas
ça.
Seulement
c'est,
sur l'histoire.
C'est l'écriture, en fait, elle est incroyablement réfléchie, belle à lire.
Puis c'est un jeu, quelque part, aussi.
C'est ça, oui. Elle s'amuse avec les mots.
Et le lecteur aussi, j'imagine.
Oui. Du coup, il n'est pas difficile de constater que le talent de Flore Vesco est incontestable. En plus, c'est la deuxième fois qu'elle parvient à reprendre un conte en le tournant totalement à sa sauce. Je m'explique. Dans ce roman, elle s'est inspirée de l'histoire originale de La princesse au petit pois pour l'univers du récit. Un château, un test pour épouser un prince qui consiste à passer une nuit sur une pile vertigineuse de matelas. Mais là, pas de petit pois sous le matelas.
Non. Il y a autre chose.
Ouais, et on se demande en quoi consiste cette épreuve, justement, et parce que personne ne le sait, en fait. En tout cas, sur les trois princesses et la servante envoyées au château, une seule réussira le test. Et croyez-moi, ce n'est pas celle que vous imaginez.
Ah ah. Suspense.
Dans ce roman, vous risquez aussi de découvrir ce que font les filles en secret la nuit dans leur lit.
Ah bah mince alors, on voulait pas le dire.
Oups. Et attention aux objets volants aussi. Enfin, objets... Bon, je n'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler.
Mais parce que celui-là, il faut pas le divulguer.
Ah oui, oui,
il faut pas.
Il est incroyable. Mais vous risquez d'être encore plus surpris par la suite de l'histoire. Elle est sensationnelle.
Donc surtout, on ne révèle rien.
Oui.
Pour garder le plaisir intact.
Du coup, au final, je me demande quand même où Flore Vesco va puiser toutes ses idées.
Mais dans son imaginaire.
Je me demande quand même si elle est humaine.
Elle sort d'un conte, en fait.
Elle sort d'un conte de feu. Ça expliquerait tout.
Ben voilà, on a découvert son secret.
Allez, voici un petit extrait qui vous donnera très sûrement envie de lire la suite. Prologue. Ma fille, fermez donc la porte et venez près de moi. Voilà, ici. Je voudrais vous conter une histoire. Vous êtes en âge maintenant de l'entendre. Voyons, par où commencer? Oui, bien sûr, par un beau jeune homme. Il était riche, noble, valeureux, grand évidemment. Pour le reste, figurez-vous un visage et un corps selon vos goûts. Vous avez bien déjà votre petite préférence, n'est-ce pas? Ne rougissez donc pas, mon poussin. Une mère devine ces choses-là. Notre héros, donc, voulait prendre femme. Et pour choisir son épouse, il avait imaginé une étonnante épreuve. Les prétendantes devaient passer une nuit dans un lit fort haut, fait d'un empilement de 10 matelas.
« Maman, je connais ce conte. Le prince avait caché un petit point entre le sommier et le premier matelas. La jeune fille était d'une telle délicatesse qu'elle en fut gênée toute la nuit.
« Petite sotte, vous ne connaissez rien encore. Ne vous semble-t-il pas que cette histoire de poids est absurde possible ? Que la morale est on ne peut plus bête ? Sentir un poids sous 10 matelas ? Comme si une bonne épouse devait être à ce point fragile et se pâmer au moindre inconfort.
Mon cœur, écoutez-moi bien. Les contes cachent une once de vérité sous 1000 fadaises. Voici le vrai de l'affaire. Celle-ci m'a été racontée par ma mère. Pour commencer, il n'était pas prince, mais lord héréditaire, près de Greenhead, à 50 lieues d'ici.
Et le petit pois ?
Le petit pois, voyons. Vous pensez bien qu'il n'y en avait pas plus que des citrouilles et des haricots magiques. Ou de bébés qui germent dans les roses et les choux. Cette manie de masquer la réalité derrière des légumes.
Ma douce, le conte du petit pois sous les matelas, c'est une soupe qu'on fait avaler aux fillettes innocentes.
L'histoire réelle, celle de ce lord et des prétendantes qui couchaient avec lui, elle n'est pas pour les enfants. Il est des vérités sur l'amour, sur les nuits de jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit, qu'on apprend en grandissant. Ce sont des secrets que je m'en vais vous conter. Aussi, tendez une oreille attentive et ne m'interrompez plus.
Si, après ça, vous n'avez pas envie de découvrir la suite, je ne sais plus quoi faire pour vous.
Non, mais on a tous envie, et je pense que les auditeurs se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce conte ? C'est vraiment pour la jeunesse, ça ? Mais oui, c'est pour la jeunesse, c'est pour
enfin,
tout le monde.
Enfin, jeunesse ado, quand même.
Ouais, oui, jeunesse ado, mais c'est pour tout le monde. Je pense que même quand on a passé l'âge d'être jeune, c'est-à-dire le mien, par exemple, eh bien, on y trouve beaucoup d'intérêt et d'agrément.
Bah justement, ma mère, elle a envie de le lire, et je pense qu'elle va adorer.
Oh, mais certainement.
Mais du coup, au final, si vous n'avez pas envie de le lire, j'ai un autre roman à vous proposer. Un roman assez engagé cette fois qui aborde le thème de la grossophobie.
On change de sujet là.
Oui, totalement. Jemima Small a 13 ans. Elle est brillante, pleine d'humour, mais malheureusement, elle est sans arrêt rabaissée par tout le monde à cause de son poids. Dans la rue, au collège, partout, on la traite de grosse. Surtout que son collège ne fait rien pour arranger les choses en créant le club des gros, auquel tous les élèves en surpoids sont invités à participer.
Magnifique, quelle idée de génie.
Au programme, conseils pour une alimentation plus saine et pour maigrir. Une bonne idée à la base, mais Jemima vit ça comme une humiliation, surtout que son père l'oblige à participer.
Ah oui, donc double peine.
Oui. Puis un jour, son collège participe à un jeu télévisé qui s'appelle Que le meilleur craque, qui est un jeu de culture générale. Et si c'était l'occasion pour Jemima de se libérer de ce carcan qui l'enferme, de s'ouvrir aux autres et de prouver qu'elle est capable de grandes choses, malgré toutes les injures qu'on lui fait au quotidien.
C'est quand même terrible qu'elle se sente obligée de prouver ses autres qualités.
Et c'est beaucoup d'actualité. Hein.
Oh ben,
on se rend compte beaucoup, beaucoup de la grossophobie. Du coup, c'est un roman d'apprentissage qui est absolument fantastique et qui m'a beaucoup fait réfléchir. Jemima dit au cours de son roman « Quel dommage que mes qualités soient intérieures, un grave défaut de conception de l'évolution humaine. » Et je trouve ça tellement vrai. Je trouve ça tellement vrai, vraiment.
Vous préféreriez que les qualités humaines se lisent sur le visage des gens ?
Peut-être. Bah, là, ça va être compliqué avec le masque. Bref, en plus, ce roman, il dénonce la grossophobie d'une très belle manière, sans être trop dans la caricature ou dans l'exagération. L'autrice a parfaitement su équilibrer l'humour et le feel-good à ce sujet plus sérieux. Bref, j'ai adoré ma lecture et je vous le conseille à 100%.
Alors, on ne sait lequel choisir. Bah, on va prendre les deux.
Bah oui, et si, malgré tout, aucun des deux romans vous tente, n'hésitez pas à aller voir mes comptes Instagram et Facebook Lado Agro au livre, où vous trouverez sûrement votre bonheur.
Oui, il y a vraiment de tout, et dans tous les genres.
Voilà.
En fait, une petite envie de lecture, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Eh bien, oui, un petit détour par vos comptes, et hop. Ah ben, on a trop d'idées, du coup. C'est quand même plus agréable d'avoir l'embarras du choix que l'inverse. Merci beaucoup, Arthur.
Avec plaisir.
Pour toutes ces suggestions. Alors, nous allons changer complètement de perspective. Et en avant-goût de l'interview de Jean-Baptiste Andrea, je vous propose d'écouter l'ouverture des Créatures de Prométhée de Beethoven pour nous mettre en condition de ce roman très musical. On écoute l'ouverture de ce ballet.
Thank you.
C'était l'ouverture des Créatures de Prométhée de Beethoven sous la direction d'Andrés Orozco Estrada. Vous êtes bien sur BAC FM dans la deuxième partie de l'émission Les Voix du Livre. Et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Baptiste Andrea par téléphone. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean-Baptiste, vous êtes romancier, vous êtes scénariste, réalisateur, et votre premier roman, Marraine, publié en 2017, avait déjà reçu plusieurs prix, dont celui du premier roman et le Fémina des lycéens. Et le troisième semble bien parti pour lui faire concurrence, puisque Des diables et des saints, publié aux éditions de l'Iconoclaste, vient de recevoir le prix RTL Lire le 15 mars dernier.
Oui, alors, c'est une très belle surprise.
Oui, c'est extraordinaire. On est très contents aussi. Alors, Des diables et des saints commence comme une enquête menée à la première personne. Les lecteurs se retrouvent avec votre personnage dans une gare et sont apostrophés par un homme, je cite, un vieux qui joue sur les pianos publics et qui joue excellemment. Bientôt, le lecteur va comprendre pourquoi cet homme se produit dans toutes ces gares. Et nous allons vivre la vie d'un orphelinat dont les pensionnaires sont maltraités psychologiquement et aussi physiquement, mais où s'écrivent des pages magnifiques sur l'amour, alors je ne révélerai rien, sur l'acceptation aussi, sur la révolte, sur la traîtrise et la fraternité. C'est un peu un paradoxe pour ceux dont la devise est « chacun pour soi ». Donc un sujet grave, délicat, lourd aussi, et partiellement tiré de faits réels, puisque vous vous êtes notamment inspiré d'une anecdote racontée par l'un de vos lecteurs. Mais on imagine sans peine que vous avez entendu d'autres anecdotes de lecteurs. Qu'est-ce qui, dans celle-ci, vous a frappé? Pourquoi celle-là?
Oui, alors en fait, c'est pas tant une anecdote que la rencontre. En fait, j'ai effectivement lu par la suite beaucoup d'anecdotes ou entendu beaucoup de choses, mais originellement c'est pas une anecdote en particulier, c'est la rencontre globale qui s'est produite avec un lecteur en fait sur un salon, et ce lecteur m'a parlé de son enfance dans un orphelinat qui s'était déroulé pas très loin du salon, je dirais pas où il est, mais ce qui m'a marqué, c'est en fait, il m'a raconté très peu d'anecdotes. Ce qui m'a marqué, c'est l'évidente émotion que cette enfance difficile générait encore en lui au moment où il était là, devant moi, devant ma table. Et il papitait, il vibrait, il rayonnait cette émotion, en fait. Il rayonnait d'émotion. Et c'est très rare dans nos sociétés. On n'est pas forcément toujours, ou en tout cas en représentation sociale, dans l'expression de nos émotions. C'est toujours rare de rencontrer quelqu'un qui, en fait, partage ses émotions sans calcul et sans filtre. Et c'était un très beau moment, c'était très émouvant pour moi. Mais c'est ça qui m'a donné, plus tard, envie d'écrire sur le sujet, mais pas que sur le sujet, parce qu'il y a quand même le thème de la musique qui est comme forme de rédemption, de l'art comme rédemption, qui est très présent dans le roman. Mais en tout cas, cette envie mon troisième roman s'est cristallisé en partie autour de l'émotion de cette rencontre.
Ah oui, donc c'est vraiment plus, oui, c'est une rencontre et une rencontre, un échange émotionnel finalement.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'anecdote liée à cette rencontre dans ce roman. Je me rappelle en fait que d'un seul détail d'une anecdote de sa jeunesse à lui que je n'ai pas mis dans le roman. Donc c'est pas des faits qui m'ont marqué, c'est plutôt à quel point je voyais à quel point il avait été ébranlé par cette expérience. À quel point aussi lui-même a trouvé la force en lui de me dire « je ne suis pas une victime, je ne me considère pas comme une victime ». Mais il y avait quand même un combat permanent contre les démons de cette enfance-là. C'était quelqu'un de très courageux, il y avait une grande beauté dans cette personne. Et donc j'ai voulu parler de tout ça, parler, oui, des démons que je sentais rôder dans son passé, mais aussi de la force, du courage que cette personne avait, de sa générosité dans le fait qu'elle venait de partager cette histoire avec moi. Il y avait tout ça, plus que juste une série d'anecdotes ou un désir pour moi d'écrire une forme de documentaire.
Oui, donc ce ne sont pas tant les faits qui vous ont motivé, qui vous ont intéressé, mais les gens. Enfin, la personne.
D'ailleurs, l'expérience humaine, les conséquences.
Dans votre roman, on le sent parce que vous faites défiler toute une galerie de personnages très marquants, très, très typés, certains qui sont d'ailleurs assez, assez terribles. Hein, je pense à l'abbé Sénac ou même à Grenouille d'ailleurs. Et le héros, Joe, et bien sûr tous les enfants de l'orphelinat, mais pourtant, et sans révéler la fin, leur sort montre une profonde évolution justement des sentiments du personnage. Vous avez dit là que cette personne que vous aviez rencontrée ne se sentait pas comme une victime, mais on sent une forte volonté de nuancer vos personnages entre la vraisemblance, la caractérisation. Est-ce que vos personnages reflètent une certaine vision de la complexité humaine ?
Écoutez, je ne peux que l'espérer. Ce qui est certain, c'est que Les Diables et des Saints a ce côté un petit peu ironique qui évidemment dit que personne n'est franchement diable et personne n'est franchement saint et que de toute façon c'est aucune de ces appellations ne veut dire quoi que ce soit. On est tous un mélange de noirceur et de lumière et j'espère avoir capturé ça. Mais il y a aussi au fond dans ce roman à moi mon optimisme. Ou mon désir d'exorciser le mal qui est présent dans notre quotidien, mon désir de dire ok, il y a du mal, mais peut-être que ce mal, peut-être que cette douleur peuvent nous servir de marchepied vers quelque chose de plus beau et de plus grand que nous. Et en tout cas, voir cette expérience que j'ai eue avec ce lecteur qui ouvertement avait une enfance très difficile comparée à la mienne qui était tout à fait normale et idéale. J'avais et qu'il venait quand même me montrer qu'il refusait d'être prisonnier de cette enfance. J'admirais cette force. J'avais envie de parler plus encore de sa force en fait que probablement des souffrances qu'il avait connues. Mais je ne pouvais pas non plus parler de cette force sans parler des difficultés de l'enfance. Donc dans ce roman, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a de la noirceur, mais c'est aussi un roman dans lequel il y a beaucoup d'humour et dans lequel il y a beaucoup de joie et beaucoup d'espoir.
Oui, alors justement, effectivement, il y a beaucoup d'humour. Ça, on le voit à presque chaque page, de l'ironie du début à la fin. Je pense, sans rien révéler, à la page V de l'encyclopédie, ou même juste à la fin, cet événement en gilet fluo, dont je ne dirai rien, qui est un tout petit détail, mais qui marque une certaine ironie. Alors, pourquoi justement le choix de l'humour pour un sujet qui est quand même assez grave?
Alors, pour moi, il y avait même pas, c'est même pas un choix conscient, c'était une façon d'écrire. Je me suis aperçu en fait assez récemment que quand j'aimais pas un roman, je parle de romans qui sont raisonnablement bien écrits, il y avait souvent deux raisons, soit que l'auteur, je me dis, n'aime pas ses personnages, et donc je trouve que finalement ce manque d'empathie entre l'auteur et ses personnages crée un manque d'empathie pour moi entre les personnages et le lecteur. Et la deuxième raison, c'est que je trouve souvent qu'il y a un manque d'humour. Je crois que, en fait, sur un sujet plus grave, même sur les sujets les plus graves, et peut-être surtout sur les sujets les plus graves, il faut savoir faire preuve d'humour. Si je balançais la réalité de certains orphelinats, et beaucoup de gens me disent « Ah, à l'époque, c'était terrible », mais je suis sûr que c'est encore le cas maintenant dans certains endroits, si je balançais la vérité, si quelqu'un voulait écrire sur des sujets graves, autre, comme la maladie, les séparations, j'en sais rien, la guerre, et le faisait sans humour, la réaction du lecteur serait de rejeter le sujet et de ne pas vouloir voir la réalité. Donc je pense que l'humour sert de vecteur de l'attention, de vecteur de l'intérêt, c'est-à-dire l'humour sert à faire glisser le lecteur dans une histoire noire tout en le protégeant juste qu'il faut de la noirceur pour qu'elle fasse son effet.
Par sur contraste, lui.
C'est-à-dire pour
peut-être.
Que le lecteur en sorte ébranlé par la noirceur, mais en même temps pas déprimé et ne la rejette pas.
Oui, parce que c'est pas du tout un roman déprimant. Hein,
pas du tout. Non,
absolument
mais
pas.
Merci d'ailleurs de le dire. C'est effectivement pas du tout ce que j'ai voulu. Moi, j'ai voulu parler de. Enfin, je dis souvent que ce roman est un trajet vers la lumière. Oui, on passe dans le noir, mais on va vers la lumière.
Oui, effectivement.
C'est très très important pour moi. C'est important en écriture. Je passe des mois et des mois, et après, au final, un an et demi sur un roman. Je sais pas pour me déprimer moi-même.
Non, ce serait dommage.
Bête, hein.
Alors justement,
vous écrivez vous aussi. Enfin, voilà. En fait, si on essaie quand même de capturer une forme de réalité. Même vous écrivez, je sais, dans le fantastique, dans des choses comme ça, et c'est un genre que j'aime beaucoup. Et la différence pour moi entre le bon fantastique, par exemple, ou la bonne science-fiction et la mauvaise, c'est que les bons romans, quels qu'ils soient, capturent une forme de vérité. Même si on est dans la science-fiction, même si on est dans la fantasy, il faut capturer une forme de vérité. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'avoir tout ça.
Et justement, quand j'ai lu votre roman, j'ai éprouvé le sentiment que les personnages avaient quelque chose de prométhéen. C'est pour ça que j'ai donc choisi cette ouverture des créatures de Prométhée de Beethoven. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ?
Oui, alors c'est complètement un sentiment. Alors évidemment, il y a un parallèle entre l'utilisation entre la présence de Beethoven dans ce livre, puisque c'est le seul compositeur que Joe, le héros du livre, accepte de jouer. Il y a un parallèle entre la vie de Beethoven, d'une certaine façon, et le destin de ses gamins. C'est-à-dire que Beethoven, c'est un des rares compositeurs qui avait une sorte de... en tout cas, qui a formulé en permanence dans ses carnets une réflexion théorique sur l'art de créer, quelle était sa fonction, et sur un désir de créer pour l'humanité, de créer pour quelque chose de plus grand que lui. Il y avait quelque chose de prométhéen dans sa démarche qui était renforcé par le fait que Beethoven était quasiment tout le temps malade à partir de l'âge de 16 ans. Donc l'acte même de créer chez Beethoven, malgré la souffrance, est prométhéen. Donc on retrouve ça dans le destin des héros de ce livre, qui sont des gamins à qui on impose des choses pas possibles, pas acceptables, et qui malgré tout arrivent à arracher à la noirceur ces éclats de lumière pour la faire grandir dans leur vie et pour aller toucher à quelque chose de sublime pour certains d'entre eux. C'est complètement l'adjectif qui définissait ces personnages, donc bravo Claire.
Je vous en prie. Alors, nous allons faire à présent une petite pause musicale, mais pas avec Beethoven, en écoutant un deuxième titre qui est un hommage à un pianiste qui, pour citer votre héros Joseph, n'avait plus besoin de clavier. Donc, c'est Thelonious Monk. On écoute Brown Midnight. Thank you. Vous êtes bien sur Bac FM. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Andréa, auteur du roman « Des diables et des saints » publié aux éditions L'Iconoclaste. Et nous venons d'écouter « Round Midnight » de Thelonious Monk. Alors Jean-Baptiste, vous êtes un amoureux de la musique et votre roman est une véritable ode à cet art exigeant et difficile. Votre héros évoque notamment du rythme, presque une basse continue, qui court dans tout le roman. D'abord, c'est son professeur de piano, qui est assez fantasque et assez extraordinaire, qui lui reproche de ne pas avoir le rythme, justement. Ensuite, le héros va le chercher et chercher à le trouver tout au long du roman. Donc cette quête se marque par un rythme particulier, des phrases aussi, et des actions, dans des successions plus ou moins lentes ou rapides. D'ailleurs, la phrase d'exergue de votre roman n'est pas une phrase, mais une partition, enfin un morceau de quelques mesures. Et donc on a un étirement ou des contractions du temps. Alors comment est-ce que vous avez défini et construit justement l'écriture de ce roman et surtout de son rythme?
C'est joli votre comparaison avec la basse continue. De plus en plus avec les romans, je m'intéresse à une forme de narration un peu plus chamboulée, on va dire, tout en gardant une certaine linéarité. Une fausse linéarité, plus exactement. Moi, mon but est surtout, c'est très important, et j'ai gardé ça du cinéma, que quand quelqu'un ouvre un livre, il soit emporté jusqu'à la fin et il ne s'ennuie pas. Et en même temps, j'avais envie d'écrire quelque chose qui soit un petit peu plus complexe en construction, peut-être un peu comme on peut avoir dès qu'on a en fait plus de deux instruments qui jouent ensemble, peut-être déjà un quatuor à cordes ou une petite symphonie, en tout cas avec différents registres. Et donc là, j'ai la voix du pianiste de Joe actuel, j'ai des retours pour l'essentiel de l'histoire dans son passé quand il avait 16 ans, mais j'ai aussi des retours dans un passé moins lointain que cette époque où il a 16 ans. J'ai aussi des points de vue différents de leçons avec son prof de musique à diverses époques, des interventions du héros à l'heure actuelle qui reviennent. Et donc j'ai voulu construire ce roman un petit peu fragmenté, sans donner l'impression en fait de fragmentation à la lecture. C'est la même histoire qui est racontée un petit peu de différents points de vue, avec une nouvelle fois une grande insistance en quantité sur l'époque où il a 16 ans. Mais il y a une recherche en fait de construction dont paradoxalement j'espère qu'elle ne se voit pas trop, parce que je détesterais qu'on voit la technique. Mais le roman qui donne une impression de linéarité quand on lit, n'est en fait pas si linéaire que ça.
Ah non, mais ça, on ne la voit pas. C'est simplement qu'on voit bien qu'il y a que ce rythme existe, que le héros le cherche et que son action elle-même est une quête du rythme.
Alors le rythme dont il parle, évidemment, ça c'est quelque chose de très intangible et d'invisible et de très dur à définir. Et d'ailleurs, le roman est une tentative pour moi de définir ce qu'est ce rythme. Et c'est pour ça que j'aimais cette image de la basse continue, parce que le rythme, pour moi, c'est cette chose qui lie tout, qui fait qu'il lie L-I-E, du verbe lier, qui lie tous les éléments de nos vies, qui nous lie à notre environnement, qui nous lie les uns aux autres. Et c'est quelque chose qui fait l'humanité, c'est quelque chose qui fait l'art. C'est cette chose qui n'est pas, on dira de nos jours, essentielle au sens... en tout cas à la survie, on n'a pas besoin du rythme pour survivre, enfin c'est ce qu'on dit, moi j'ai l'impression que si en fait, mais en tout cas voilà, c'est cette chose magique qui fait que l'être humain a inventé la musique, a inventé la peinture, a inventé la littérature et fait des choses qui à première vue ne paraissent pas nécessaires à sa survie. C'est ce qui nous connecte à notre surhumanité. Je sais pas, d'aucuns appelleront ça Dieu, peu importe, pour moi c'est très dur à définir.
Et justement, dans votre roman, quand vous, par exemple, vous parlez du professeur de piano à des époques différentes, comme vous venez de le mentionner, alors qu'on est dans par exemple, au moment où le héros a 16 ans et qu'il est dans cet orphelinat, ça apparaît plus comme des respirations, comme des éclairs, justement, de quelque chose qui apporte une nouvelle lecture. Donc oui, il y a à la fois le rythme et cette construction dont vous parlez. Votre roman s'inscrit d'ailleurs dans plusieurs traditions littéraires, en fait, puisqu'on a à la fois un côté un peu picaresque avec ces histoires d'orphelins qui tentent, je ne vais pas dire quoi, mais qui ont de véritables aventures, qui essaient de se sortir de cette situation. C'est un côté aussi épique, parce qu'il y a quand même des passages complètement épiques. On est dans l'épopée. Je les citerai pas parce que je voudrais que le lecteur ait la surprise. Et puis, bien sûr, des épisodes dramatiques. Il y a du suspense. Il y a des moments, je vais pas le révéler, mais où les personnages, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Parce que vous ne les épargnez pas, donc tout peut leur arriver. C'est pas comme dans certains textes où on se dit, c'est le héros, il va pas souffrir. Là, ce sont des héros que vous n'avez pas peur de faire souffrir. Donc, il y a aussi donc des moments de grande lumière, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense à une scène que je ne révélerai pas, mais qui se passe sous les étoiles. Mmh. On sent un véritable plaisir de l'auteur, vous, à faire passer le lecteur par toutes les montagnes russes de l'émotion. Alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais quelle place est-ce que vous accordez finalement à l'émotion dans votre écriture ?
Ah ben je dirais que j'accorde la place de choix à l'émotion. Je dirais même que je n'écris que dans l'émotion. Je n'écris que par émotion. Je sais même pas faire autrement. Il n'y a pas un gramme d'intellect dans ma façon d'écrire, en fait. C'est des sortes de phases de transe où tout d'un coup une histoire s'impose plus ou moins à moi. Et évidemment, j'y réfléchis. C'est pas un truc qui tombe du ciel, mais tout d'un coup les choses se mettent en place, et parce que cette histoire m'émeut, je suis complètement emporté, j'essaie de partager sans aucun calcul l'émotion qu'elle m'a procurée. Donc je me relis très très peu, je prépare beaucoup le livre, hein, donc le plan, etc., ce que je vais raconter, précisément pour pas me perdre. Mm-hmm. Mais après, je n'écris que par émotion à 100%.
Oui, donc
on m'a d'ailleurs jamais posé la question, mais c'est moi, c'est ce qui décrit mon écriture. Il n'y a pas une once de calcul, d'effet de phrase, de quoi que ce soit. C'est-à-dire, si on aime ça, tant mieux. Les gens qui n'aiment pas, j'y peux rien. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, j'ai pas menti, j'ai pas essayé de calculer. Est-ce que ce livre va plaire? Est-ce que ce livre va pas plaire? J'ai juste essayé de partager, pour moi, vraiment ça, une émotion pure.
Ah oui, donc en fait, c'est tout. Vous créez une préparation très longue.
C'est
vous travaillez longuement sur la construction des personnages, sur la construction de l'histoire.
Non, enfin, sur la structure du récit, vraiment plus que sur la construction des personnages. Les personnages viennent assez vite, mais plus sur la structure du récit, de qu'est-ce qui va se passer quand et la construction, oui, du héros, de d'où il part et où il va. Après, les choses se précisent en écrivant sur les personnages. Je peux m'arrêter pour réfléchir, mais paradoxalement, au stade de la préparation de tout le plan du roman, je suis comme un cheval qui piaffe. C'est-à-dire, je sais quand même, on va mentir, j'ai qu'une envie, c'est de commencer à l'écrire. Et donc, je dois résister pour être sûr que je vais pas partir et être sur des voies de garage. Et donc, je m'impose une phase de préparation qui en général dure pas plus d'un mois ou un mois et demi, qui est le plan, en fait, de l'histoire. Et après, je peux plus me retenir, je démarre l'histoire. Et il y a forcément des choses improvisées, heureusement d'ailleurs,
oui,
qui apparaissent dans l'écriture même du roman.
Et donc, les personnages, eux, naissent peut-être plus facilement en vous? C'est eux qui
commencent
au début de l'histoire?
Ils arrivent assez vite, les personnages. Pour moi, la lutte est plutôt qu'est-ce qui va se passer, à quel moment, est-ce que c'est attendu, est-ce que c'est pas attendu, et est-ce que l'histoire avance bien. Est-ce que c'est vrai? C'est ma question principale. Par exemple, j'ai jamais cherché à écrire une histoire, l'histoire la plus originale possible. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Autant dans le cinéma, j'ai écrit pas mal d'histoires dans lesquelles on recherchait l'originalité un peu à tout prix pour que le scénar se démarque de celui du voisin. Autant en littérature, c'est pas du tout une nécessité pour moi. Je recherche l'émotion, et l'émotion naît de la vérité, c'est-à-dire de la sensation que les personnages sont vivants, du fait qu'on s'attache à eux. C'est tout ce qui compte pour moi. Là, c'est un roman qui se passe dans un orphelinat, un pensionnat. Il y a eu d'autres histoires dans les pensionnats avant. Ça n'a aucune importance pour moi. On peut raconter 10 000 fois la même histoire et la renouveler 10 000 fois. C'est juste essayer d'être à l'écoute de cette vérité des personnages. Et quand quelque chose sonne juste, pour moi, j'y vais. Je ne me pose aucune autre question.
Eh bien, écoutez, vous avez eu raison, parce que les personnages sont extrêmement présents à l'esprit du lecteur et surtout dans son cœur, parce que on a peur pour eux aussi. Je vous cache pas que la scène, je la dirai pas, hein, bien évidemment, mais celle qui se passe sous les étoiles, vous voyez bien évidemment de laquelle
oui.
je parle.
Oui. Non, mais d'abord, ça me touche beaucoup. Et ce qui est formidable pour moi, c'est que, enfin, une nouvelle fois, c'est pas le résultat d'un calcul. Moi, je suis ému quand j'écris la scène. En gros, c'est très bête. Et j'essaie d'expliquer aux gens que je suis ému quand, j'écris une scène. Mais c'est pas parce que je me dis, ah là là, qu'est-ce que j'écris bien. Au contraire, à la limite, je suis comme tous les écrivains. Je suis toujours dans le doute. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si j'écris la scène, c'est qu'elle m'émeut. Mmh. Et donc, de pouvoir partager ça avec les lectrices, les lecteurs, c'est vraiment très très gratifiant. Et puis j'ai toujours cette impression bizarre que mes personnages existent quelque part, presque dans un monde parallèle, et que je peux et de leur offrir cette connexion avec d'autres lecteurs, je trouve ça chouette.
Oui, c'est la connexion, le mot qui pourrait résumer votre écriture, cette connexion. Vous avez eu une connexion avec cette personne, ce lecteur. Vous créez des connexions avec vos futurs lecteurs. C'est le côté humain, universel, peut-être, qui vous caractérise.
Si c'est le cas, en tout cas, c'est vraiment formidable. Moi, je peux pas espérer à davantage que ça. C'est le Graal.
Alors, oui, c'est vrai. Alors, juste une dernière question. Le titre, est-ce que justement ce titre, Des diables et des saints, comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que justement c'est cette idée que les humains ne sont pas, n'ont rien de manichéen? Est-ce que vous vouliez signifier autre chose?
Oui, non, c'est exactement ça. En fait, moi, c'est le premier roman que j'ai écrit son titre. Avant, j'aimais toujours avoir un titre pour me rassurer, pour savoir où j'allais. Là, tout d'un coup, j'étais tellement, j'étais très sûr de vouloir raconter cette histoire, très sûr de sa direction. Je me suis dit, je trouverai un titre après. C'était le résultat d'une réflexion avec mon éditrice. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, le titre a une dimension un petit peu moqueuse, un petit peu piquante, qui est de dire, il n'y a pas de diable et il n'y a pas de saint. Et puis, en plus, il y a une forme dans ce roman de critique de la religion. Alors pas de la religion en elle-même, pas dans ce que dans ce que le sentiment religieux peut avoir de très beau, hein, mais en tout cas dans les dérives qui apparaissent sitôt qu'un système de pensée s'organise. Et ces dérives existent, et je voulais, sans forcer le trait et sans en rajouter, je voulais pas non plus ne pas en parler. Donc voilà, la notion de diable et de saint, pour moi, qui est évidemment très catholique, qui est mon éducation culturellement, me paraît très très étrange. Non mais notamment la notion de saint, qui est une notion inventée par le dogme.
Oui. Donc pour vous, vous êtes les humains sont entre les diables et les saints, ni l'un, ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre.
Les humains sont entre eux, on va dire, faire le bien et faire le mal, ça c'est certain. Je pense pas du tout qu'ils soient. Je pense même plutôt qui sont prédisposés vers le bien. D'ailleurs, je suis assez sensible aux thèses bouddhistes. Il y a des études assez récentes qui démontrent que les enfants, les bébés, donc l'être humain, très tôt est porté vers l'altruisme, vers un désir d'assister autrui. Donc moi, je crois plutôt que l'être humain est prédisposé, on va dire, vers le bien, et c'est souvent la société, le manque d'amour et le cadre familial dans lequel on grandit qui peuvent poser problème.
Eh bien, c'est sur ce constat social et humain que nous nous arrêterons aujourd'hui. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur votre roman. Mais, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il vous suffit de vous rendre chez votre libraire pour trouver « Des diables et des saints », publié, je le rappelle, par les éditions de l'Iconoclaste. Alors, merci beaucoup, Jean-Baptiste Andréa, d'avoir passé un moment avec nous sur les ondes de Bac FM.
Merci de m'avoir reçu, c'était un vrai plaisir.
Plaisir partagé. Et je remercie donc nos chroniqueurs pour les coups de cœur enthousiastes qu'ils nous ont présentés et notre partenaire, le réseau de librairies indépendantes Initial. Cette émission était réalisée et montée par Laetitia Durieux et conçue et présentée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.